On est à 8h38, on va aller parler tout de suite avec Michel Lagacé. Bon, on va lui parler comme maire, on va lui parler ensuite comme préfet. On va commencer par cette information-là, à savoir que la firme d'ingénierie SNC-Lavalin formule une offre de remboursement volontaire à différentes villes du Québec et aussi à la municipalité de Saint-Cyprien afin de compenser des sommes payées en trop pour des contrats publics entachés par des manœuvres frauduleuses. Monsieur Lagacé, bonjour.
Bonjour, ça vient.
Monsieur Lagacé, bon, comment vous décortiquez, si on veut, cette information-là pour voir comment on en est arrivé à ce remboursement-là?
Regardez, essentiellement, en août 2010, on faisait des appels d'offres pour aller chercher des firmes d'ingénierie. Trois firmes avaient postulé, c'est-à-dire SNC-Lavalin, Dassault et BPR. La plus basse était SNC-Lavalin. Donc, SNC-Lavalin est engagé. Je dirais que durant les travaux de construction de l'aréna, notamment, ben, il y a eu des mandats supplémentaires qui ont été donnés, notamment en lien avec le design du stationnement arrière qui avait pas été prévu dans l'appel d'offres pour l'aréna. Donc, puis d'autres éléments, notamment un surpresseur qui était rendu nécessaire pour le giclage de l'ensemble du bâtiment. Fait que quand on additionne l'ensemble des sommes, là, on est à 256 000 un peu plus de dollars. Et bon, hier matin, bon, des gens me disent, je suis très tôt sur, moi, 5h, je lis la presse plus et je fais le tour des autres journaux, puis j'avais pas vu aucun article tout fait de la municipalité de Saint-Cyprien. Oui. Et hier, il y a quelqu'un qui me prévient que Saint-Cyprien faisait les manchettes de la presse. Fait que je suis allé voir et bon, c'est sûr que c'est très surprenant, là. On parle pas d'un coup d'ingénierie très dispendieux, là, quand on doit parler avec des projets comme Montréal, notamment, là. Je disais Montréal ce matin, on parle d'un coût d'ingénierie de 7 millions. Fait que dans notre cas, nous, on est à 256 000 $.
Ouais. Pour un remboursement, est-ce que j'ai bien compris, qui est quoi, là, de 17 000?
Ben, regardez, si c'est un excédent, puis c'est ce qui parle dans l'article hier, là, on va tenter aujourd'hui, là, hier, on a tenté de faire d'abord l'état de situation.
OK, donc, ce matin, quand on en parle, là, on est comme au préliminaire, là. Il vous reste à savoir exactement c'est combien, puis quand est-ce que ça va arriver, puis...
Tout à fait.
Et puis, bon. Mais, est-ce que
on peut faire un estimé, mettons, ouais. Si les gens disaient hier qu'on était à peu près 20% de surfacturation.
Ouais.
Si c'est 20% de 250 000, on est environ à 50 000, puis c'est un projet tiers-tiers-tiers. Fait que dans le cas de la municipalité de Saint-Cyprien, ça représenterait environ 16 à 17 000 $, okay. Effectivement.
Est-ce que vous savez si c'est la firme d'ingénierie SNC-Lavalin qui, en quelque sorte, s'est rendue avant qu'on lui demande, ou est-ce que c'est suite à une enquête où on a obligé SNC-Lavalin à rembourser?
Bon, voilà, Monsieur Saint-Pierre, notre directeur général, là, ce matin, là, va faire les liens avec l'organisme en question, là, qui fouille le dossier, parce que dans notre cas, nous, on n'a eu aucune communication. La seule communication qu'on a eue, là, c'est par l'entremise des médias. Donc ça, je trouve ça un peu particulier qu'on puisse être appelé éventuellement à recevoir des compensations pour des réclamations frauduleuses, alors que les concernés, c'est-à-dire la municipalité de Saint-Cyprien, on n'est même pas au courant.
Ben, souvent, c'est le journalisme d'enquête qui amène ça, puis c'est à ça que ça sert. Hein.
Oh.
Dans un autre ordre d'idées, est-ce que ça vous inquiète pas par rapport à le fait suivant, c'est que SNC-Lavalin était le plus bas soumissionnaire, et à l'intérieur de cette plus basse soumission-là, dans votre tiers à vous, là, pour la partie de la municipalité, il y aurait autour de 16 à 17 000 $. Est-ce que ça vous rend suspicieux par rapport aux autres soumissionnaires qui étaient encore plus élevés?
Ben regardez, en 2009-2010, là, on parlait de collusion et de corruption. Fait que les gens s'entendaient entre eux pour fixer le gagnant. Fait que c'était démontré ad nauseam dans la commission Charbonneau. C'est pas pour rien que 2009-2010, je souhaitais ardemment qu'il y ait une commission d'enquête qui se mette en place pour nettoyer la soie cochon en lien avec tout ce qui se passait dans l'attribution des contrats. Là, ça a été fait. Puis curieusement, ben, après la mise en place de la commission Charbonneau, ben les contrats au MTQ ont baissé de 25 à 30. Fait que socialement parlant, la société québécoise a accepté de verser 25 à 30 % à toutes sortes d'entreprises parce qu'il y avait de la collusion et corruption.
Oui, oui, oui. Monsieur Lagacé, je voyais à la séance du Conseil de ville de lundi soir passé quelqu'un qui posait une question concernant bon éco-centre, centre de tri, ce qu'on y récupère, ce qu'on n'y récupère plus. Faisons le point là-dessus ce matin, si vous le voulez bien. Est-ce qu'on peut encore parler d'éco-centre ou est-ce qu'il faut parler de centre de tri maintenant?
Non, c'est un éco-centre. Le centre de tri, c'est VIA. Dans le cas de l'éco-centre, il y a probablement que le monsieur en question faisait référence à des appareils électroniques, là, télé et autres types d'appareils électroniques. La loi québécoise nous interdit de revendre les produits qui sont déposés chez nous. Donc, ça a été fait, mais ça ne se fait plus parce qu'effectivement, la loi québécoise nous le défend. Pour ce qui est des autres meubles, on est en train de regarder actuellement de quelle façon on pourrait les rendre disponibles.
OK. Juste pour qu'on comprenne bien, ouais. ça veut dire que, parce que moi, je ne sais pas, là, la seule affaire que j'ai récupérée à l'éco-centre à un moment donné, moi, c'était une porte. Mais ça veut dire qu'avant, on pouvait même aller porter, mettons, un système de son et quelqu'un pouvait le racheter par après, c'est ça?
C'est en plein ça.
OK. Maintenant, on ne peut plus faire ça.
Non, parce que la loi québécoise nous l'interdit.
OK. Est-ce qu'elle est interdite sur tous les fronts ou est-ce qu'elle est interdite sur certains fronts seulement?
Tout ce qui est en lien avec le matériel électronique.
OK, mais je veux dire, on pourrait... Est-ce qu'on peut encore, mettons, acheter une porte, une chaise, bureau, un bibelot?
Les gens qui peuvent... puis on est en train de regarder pour le mettre de meilleure façon puis s'assurer que ça soit fait de façon plus sécuritaire pour les gens qui se promènent sur le site. Là.
Ouais.
Éventuellement, on va revoir aussi l'éco-centre de Rivière-du-Loup parce que... il n'est pas suffisamment fonctionnel, donc on veut améliorer la fonctionnalité.
Est-ce qu'on peut conclure, si on veut, cette partie-là de l'entrevue en disant que on peut encore aller transiger, si on veut, sur des choses, mais pas dans l'électronique?
Assurément pas dans l'électronique, effectivement.
OK. Paraît-il, c'est Louis Deschênes qui m'a apporté ça tout à l'heure, juste avant l'entrevue, une délégation de l'Union des municipalités du Québec, composée des maires de Carleton, Gaspé, Matane, New Richmond, a rencontré mardi à Québec le ministre de l'Énergie, Pierre Arcan. On voulait clarifier la vision du gouvernement quant à l'avenir de la filière éolienne. La question que je vous pose, est-ce que ça se limitait strictement à la Gaspésie, oui ou non? Sinon, est-ce qu'il y a une rencontre qui est prévue pour le Bas-Saint-Laurent?
Ben, regardez, quand on parle des trois maires en question, c'est les maires de New Richmond, de Gaspé et de Matane. Donc, oui. Le Bas-Saint-Laurent était concerné. Et les trois maires en question qui ont chez eux des entreprises dans la filière éolienne, ces maires-là ont fait valoir qu'à l'intérieur de la politique actuelle, c'est une politique qui amenait à terme la mort de la filière éolienne en Gaspésie et dans la Matanie. Ce qui est souhaité, puis vous savez, si, mettons, dans les 4 à 5 prochaines années, il va y avoir le renouvellement de tous les parcs éoliens là, qui sont en place depuis 15-20 ans, mettons 20 ans en bout de ligne. Et si la filière n'est pas maintenue en place, ben dans 4 ans, 5 ans d'ici, quand on va vouloir repartir en appel d'offres, ben assurément qu'hormis les tours qui pourraient venir de Marmène, Trois-Rivières, les autres usines vont être fermées.
Oui. Mais je posais la question, puis vous savez comment est-ce qu'on aime ça, tous les deux, parler de développement éolien. Je posais la question il y a 2 semaines, M. Lagacé, en disant, est-ce qu'au Québec, et particulièrement en Gaspésie, puis peut-être que vous allez être capable de me répondre à ça, est-ce qu'on s'est pas un peu assis en se disant, il n'y a pas de problème, les contrats vont venir du développement éolien au Québec et on s'est pas attardé à se demander si on pourrait vendre notre expertise ailleurs, donc se trouver des clients hors Québec. Vous répondez quoi à ça?
Ça se fait déjà. Le Marmène exporte notamment sur les marchés américains de façon assez importante. Ouais. Le DLM Glass Fiber, ils sont aussi en train de le font. Tout ce qui est du secteur, notamment entretien, M. Saint-Pierre, là, il faut aller aux journées de portes éoliennes lorsqu'il y en a, puis cette année ça va être à Matane, où on voit toute l'expertise qui a été développée, qui maintenant n'est pas uniquement utilisée en Gaspésie,
mais
est utilisée notamment dans le reste du Canada, puis en Amérique, aux États-Unis notamment.
Mais est-ce qu'on pourrait pas travailler encore plus fort?
Tout à fait.
Un peu comme je vais vous donner un exemple, là. Dans l'industrie du camionnage, on le voit présentement. Il n'y aura pas d'ouvrage sur la 185, puis on va y venir tout à l'heure pour minimalement 2 ans, là, à ce qu'on pense. Ces camionneurs-là, ils doivent se tourner vers des contrat ailleurs. Au niveau de l'éolien, s'il y a, comme on dit, un passage à vide pendant un certain nombre d'années, moi, je pense qu'on devrait travailler très fort à faire de la recherche et du développement à l'extérieur du Canada.
Ben là-dessus, je vous suis entièrement. Puis ça fait quand on parle du technocentre éolien, puis l'Association québécoise pour les producteurs d'énergie renouvelable, c'est là-dessus que ces gens-là travaillent fortement. Je pense que ce qui est souhaité, c'est que le gouvernement du Québec puisse mieux soutenir, je dirais, l'exportation, puis de voir effectivement est-ce qu'on puisse nos donneurs d'ordre puissent envoyer effectivement à concurrence égale les notamment des tours qui sont faites chez Marmène, que ce soit à Matane ou encore à Trois-Rivières. Il y en a déjà qui traversent nos frontières, qui s'en vont aux États-Unis notamment. Puis avec tout ce qui est en lien avec le remplacement du charbon, des énergies fossiles, notamment aux États-Unis, de façon plus particulièrement le charbon, dans notre cas, nous, on pense que l'électricité qui est produite, soit par les l'hydroélectricité ou encore l'énergie éolienne, c'est une recette qui est gagnante aux États-Unis.
Ouais. Je me trompe ou les Américains forcent pas trop là-dessus, l'éolien, présentement?
Allez voir l'émergence des parcs éoliens. Là, actuellement, c'est assurément un des endroits au monde où il y a le plus de parcs éoliens qui sont en train de se mettre en place, particulièrement dans l'État du Texas.
Donc on pourrait même, à la limite, s'attendre à un certain protectionnisme de la part des Américains qui vont vouloir fabriquer leurs tours, fabriquer leurs éoliennes, fabriquer leurs turbines, puis éviter d'aller acheter ça à l'étranger s'il y a un marché pour ça, comme vous le dites, qui se développe aux États-Unis.
C'est sûr que c'est... en même temps qu'on parle de libre-échange avec les États-Unis, ils sont plutôt du style fermé. On a rien qu'à penser au bois d'œuf.
OK. Parlons du dossier de la 185, M. Lagacé. Depuis l'épisode là 2025, là, il s'est passé quoi?
Essentiellement, on a demandé une rencontre avec M. Damour. Ça doit faire trois semaines, je pense bien. Là, une note écrite conjointement avec Mme Sirois, ou ce qu'on a appelé le ministre. Pour pouvoir échanger avec lui, dans le cas de la MRC des Verdiloups, à la séance du 21 avril, on a adopté une résolution décriant le caractère déraisonnable de la prolongation des travaux jusqu'en 2025. Et on demande une rencontre, là, autant avec M. Damour qu'avec M. Daou.
Donc, ça fait trois semaines que ça a été demandé. Avez-vous eu au moins un accusé réception?
S'il est rentré, là, c'est d'hier. Je pense bien que M. Damour, de ce temps-ci, il est fort occupé. Il va trouver certainement une fenêtre pour nous rencontrer. Comprends qu'il y a un agenda qui est assez...
OK. Soyons bons joueurs encore pour une couple de semaines.
Oui, ça va. Je peux être capable d'attendre encore une couple de semaines.
Merci, M. Lagacé. Merci. 9h-10, Michel Lagacé, le préfet de la MRC de Rivière-du-Loup. Concernant le développement éolien, tu sais, il faut... En tout cas, moi, je trouve que l'exemple du camionnage est bon, là. Quand t'as pas d'ouvrage à une place, faut que tu te trouves de l'ouvrage ailleurs, même si c'est bien plate. Puis au niveau éolien, je pense qu'il va falloir mettre le pied sur l'accélérateur, puis aller voir ailleurs. T'as pas le choix. C'est comme ça. C'est comme ça. Si tu veux continuer à opérer avec autant de volume, puis qu'il y a un passage à vide ou au neutre, si on veut, pendant une certaine période chez vous, veux pas, t'as pas le choix. Faut que t'ailles conquérir de nouveaux marchés. Au moment de la découverte du nouveau monde, les Français, les Européens avaient compris ça.